Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 53. Pour mieux comprendre cette étude, je vous recommande de l'écouter une deuxième fois. Notre thème sera la prière et vraiment une lutte continuelle. J'aimerais vous demander de lire chez vous, là où vous vous trouvez, ou quand vous aurez un moment, et ceci attentivement, 1 Rois, chapitre 18, versets 30 à 45. 1 Rois 18, versets 30 à 45. Il est parlé d'Élie. Et Élie était un homme de même nature que nous. Il pria instamment pour qu'il n'y ait eu pas de pluie. Et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. De nouveau, il pria. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Évangile, c'est pas l'Évangile, mais c'est le Nouveau Testament. Donc Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. Pour Élie, nous étions donc évidemment dans l'Ancien Testament. Ensuite, il est dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18, « Par toutes sortes de prières et de demandes, priez à tout moment en esprit. » Et pour cela, soyez vigilants avec une entière assiduité et demandez pour tous les saints. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Nous venons de voir que ce qui est vrai quant à l'activité de l'ennemi pour empêcher la prière est également vrai pour l'interrompre. En effet, lorsque nous prions, nous ressentons des interruptions. Mais il existe une manière plus subtile d'entraver la continuité de la prière. Nous pouvons réussir à préserver notre temps de prière pendant une semaine, voire plus. Et puis quelque chose s'immiscie, qui en quelque sorte interrompt cette continuité et nous perdons la prière. Nous allons voir qu'il faut mener carrément une lutte difficile pour retrouver cette vie de prière. Pour beaucoup d'entre nous, nous connaissons une vie de prière spasmodique, chargée par la nécessité de lutter sans cesse afin de retrouver la base de la prière perdue parce que l'ennemi est la cause vraiment de ces interruptions. Et c'est sur ce point que nous devons être très vigilants. Nous devons particulièrement surveiller les réactions après un temps de prière intensive. Nous devons veiller à ne pas nous relâcher sous le prétexte de prendre des vacances spirituelles évidemment, après une période rigoureuse. Le danger est permanent. Et lorsque l'ennemi a échoué dans sa tentative d'empêcher la prière, lorsqu'il ne parvient pas à l'interrompre, alors il cherche à la détruire. Nous pouvons avoir un temps de prière intense, nous pouvons avoir une série de moments de prière intense, l'ennemi ne désarmera jamais. S'il ne peut pas attaquer directement notre vie de prière, il cherchera à l'entamer sous un autre angle, et ceci de façon à paralyser notre action. Il se peut que nous avons une vie de prière bonne, dense, consistante, et puis quelque chose se produit dans une autre partie de notre vie. Nous voyons que cet événement a attaqué indirectement notre vie de prière et nous sommes dans l'incapacité de prier tant que cette affaire n'a pas été remise en ordre. Nous devons donc admettre que ces perturbations résultent des efforts de l'ennemi et selon un plan parfaitement organisé dans le but de détruire ou d'entraver notre vie de prière. Il fait tout cela. Et nous verrons également que notre vie de prière est le pivot de toute chose. Lorsque nous parvenons à prier réellement, et lorsque nous livrons à la prière, nous nous livrons donc à la prière, alors nous découvrons exactement où nous sommes en réalité avec toute notre vie. L'iniquité restant dans nos cœurs, elle peut n'avoir aucun rapport avec notre vie de prière, mais elle lui portera indirectement atteinte. Et ces broutilles, entre parenthèses, influent directement sur notre vie de prière. L'ennemi nous cerne de mille choses afin d'anéantir notre vie de prière. Voyez-vous, pour l'instant, nous ne pouvons pas reconnaître la signification d'un détail, quel qu'il soit. Ou par exemple d'une communion interrompue, d'une relation tendue, d'une contrariété de la moindre brèche. Alors, nous ne pouvons pas en reconnaître la signification tant que nous n'avons pas une forte vie de prière. Alors seulement, nous verrons que ce détail a frappé la vie même de la prière. Nous découvrirons alors qu'une action subtile s'est exercée aux abords de notre vie qui nous frappe en plein cœur. L'ennemi cherche à détruire la prière. Il multiplie les obstacles pour la rendre impossible à l'aide d'éléments extérieurs. Je suis certain que nous pouvons tous comprendre cela, car l'expérience le prouve. À présent, élargissons ce conflit spirituel. Les passages cités présentent une position très vaste. Le récit du combat d'Élie sur le mont Carmel de un roi illustre sans aucun doute une des vérités du Nouveau Testament, en particulier, je devrais dire celle de Éphésiens chapitre 6 verset 18. Ces deux choses liées comme la partie à ce contrepartie, ils ont en commun le lien du conflit situé dans les zones célestes. Et ce que dit Jacques axe toute la question en direction des cieux. Oui, les cieux ouverts et fermés, le gouvernement des cieux, l'autorité des cieux, les trois, on peut dire dans un roi, chapitre 18, verset 30 à 45, ainsi rappelez-vous Jacques, chapitre 5, verset 17 à 18, et Éphésiens 6, verset 18, ils indiquent clairement où se situe le lieu du conflit. Ce conflit spirituel dans lequel vous et moi sommes engagés dès que nous pénétrons dans le dessein total de Dieu et dans le témoignage de Christ, il est dans son issue finale relié au gouvernement des cieux. Or, qui gouvernera dans les cieux? Voilà la question. Dans ce domaine se trouvent les dominations, les puissances et les princes des ténèbres et les armées d'esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Cependant, ces places sont usurpées et contraires à la pensée et à la volonté de Dieu. Christ, son Église et ses membres sont donc appelés, selon le dessein de Dieu, à gouverner dans les cieux. Les cieux sont-ils destinés à être sataniques ou bien doivent-ils exprimer la souveraineté absolue du Seigneur Jésus-Christ dans l'Église et par l'Église qui est son corps? Les lieux célestes sont en jeu. Oui, notre conflit se situe là où sont les réalités dominatrices et notre vie de prière est liée à cet enjeu de taille. Notre vie de prière n'est pas simplement liée aux incidents de la vie sur la terre, elle dépasse largement ce stade. Si seulement l'immensité de cette vocation était reconnue par les enfants de Dieu, malheureusement, nos prières sont souvent évasives ou axées sur des choses triviales. Nous gaspillons notre temps à parler au Seigneur des choses de notre vie ordinaire. Si elles ont de l'importance pour nous et une valeur pour la vie terrestre, elles sont étrangères aux choses suprêmes du dessein de Dieu. Il y a, chers frères et sœurs, une grande différence entre prier pour les choses d'ici-bas et prier contre les forces immenses de l'univers pour la victoire des choses célestes. Les enfants de Dieu ont besoin de s'élever dans la prière, et ceci afin que les pensées puissantes, célestes, éternelles et universelles soient émues et touché et même accompli. Nous devons donc occuper notre place céleste en ce qui concerne la prière. Ainsi, les questions réellement spirituelles qui sont à la base de toutes les autres seront touchées. Bien souvent, le Seigneur ne permet pas que nos prières soient efficaces, car il veut quoi ? Il veut que nous décélions derrière tout cela, des questions autrement plus importantes. Nous prions pour que quelque chose arrive, pour qu'un événement se produise ou se précise, mais voilà, rien n'arrive. Et le Seigneur cherche à nous indiquer qu'il existe une clé spirituelle à cette situation et qu'il ne peut nous exaucer car cela ne contribuerait pas à l'accroissement spirituel de notre intelligence, de notre compréhension, de notre valeur, de notre connaissance. Il ne nous exaucerait alors que parce que nous demandons quelque chose alors que Dieu veut nous instruire afin que nous prenions possession de situations spirituelles. Oui, chers frères et sœurs, les zones célestes sont la sphère de ce conflit. Mais quelle est la raison de ce conflit ? Dans les passages de 1 Roi, chapitre 18, dont nous avons vu, et Éphésiens, chapitre 6, précédemment cités, nous voyons, d'après le contexte, que l'Église est la raison du conflit. Dans 1 Roi, chapitre 18, il s'agit naturellement du peuple de Dieu, et la prière d'Élie, elle a permis que le cœur des hommes revienne vers Dieu. Mais dans toute la lettre aux Éphésiens, il est question de l'Église qui est son corps et c'est là la raison de la lutte. Un combat est livré dans les ondes célestes liées à l'Église. Le conflit n'est donc pas individuel, c'est une question collective. Il concerne tout le corps de Christ et tous les saints. Cela induit que tout élément du corps vaincu entraîne la souffrance spirituelle du corps tout entier. Ce corps en ignore la raison, il n'a pas conscience d'une souffrance individuelle, mais cette souffrance est enregistrée dans notre esprit et dans la conscience de notre esprit. La chute ou le rejet d'un seul de ces éléments constituants est donc une perte pour tout le corps. L'ennemi cherche donc à isoler et puis à abattre les éléments constituants du corps, car il connaît la valeur et la relation de chaque membre dans le corps. Et c'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint insiste spirituellement sur la nécessité de prier pour tous les saints, sur la communion dans la prière de tout le peuple de Dieu. Si cette prière n'existait pas dans ce contexte entier, eh bien, c'est une perte pour Christ et pour son peuple. D'autre part, il faut ajouter que l'objet suprême du conflit n'est pas uniquement l'Église. c'est l'occasion du conflit, mais pas l'objet final. L'Église, le corps de Christ, est l'instrument. L'écrin de son témoignage qui est déposé dans le corps. Il en fut ainsi lors de sa résurrection, lors de la Pentecôte. Ce fut son témoignage, le témoignage de son exaltation, de sa gloire, de son autorité universelle dans les cieux et sur la terre. Il a déposé ce témoignage dans l'Église à la Pentecôte. Ce que le temple avait été dans l'Ancien Testament, le sanctuaire de la gloire de Dieu, le corps de Christ, l'est donc dans le Nouveau Testament, qui est le sanctuaire de sa gloire, de son témoignage et de son saint nom. Donc c'est principalement pour atteindre cette gloire, ce saint nom, que l'ennemi regroupe ses forces sur l'instrument élu, l'Église, qui est l'Église, et qui est le corps de Christ. Ainsi, l'Église devient l'occasion du conflit, alors qu'elle n'en est pas l'objet direct. L'ennemi veut ainsi toucher Christ au travers du corps. Nous savons que cela était vrai déjà dans l'Ancien Testament. Alors que le peuple d'Israël déclinait spirituellement la gloire du Seigneur, son saint nom, sa majesté, était voilée. Et lorsque la vie spirituelle d'Israël croissait, le témoignage de Yahvé l'Éternel gardait toute sa force. Et dans le Nouveau Testament, et à notre époque de cet âge du Nouveau Testament, l'ennemi tente de déshonorer l'Éternel en détruisant la vie spirituelle de son peuple ou en brisant la communion des saints. La haine et l'opposition virulente de l'ennemi se focalisent donc contre la vie corporative du peuple de Dieu. Et il dispose d'une foule de moyens toujours plus subtils les uns que les autres pour parvenir à ses fins. Donc, nous sentons bien, chers amis, que nous devrons tous veiller, Éphésiens chapitre 6, verset 8, ainsi que monter la garde, selon Néhémie chapitre 4, verset 9. Cela signifie que nous devrons tout éprouver. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Et donc, nous devons tout vérifier, vérifier l'exactitude de toute rumeur, de tout argument, de tout récit, afin d'en connaître la véracité absolue. Les bruits, les rumeurs, les insinuations acceptées telles quelles sont susceptibles de nous diviser, oui, de nous élever les uns contre les autres. Et la crainte et la méfiance inhérentes à notre génération peuvent inciter à admettre, sans le vérifier, que notre frère ou sœur ne soit pas sincère et provoquer, par exemple, une rupture de communion spirituelle, donc carrément une brèche. Il est donc indispensable de créer une garde, de passer toute situation au crible, afin de déjouer les ruses de l'adversaire. La vigilance, la veille, la prière sont nécessaires face au nombre incalculable de méthodes employées par l'ennemi pour rompre et pour ruiner la vie corporative du peuple de Dieu. La prière doit donc nous donner l'intelligence pour comprendre les ruses de l'ennemi. Veillez pour recevoir la prière par l'Esprit Saint, c'est se donner la possibilité de découvrir dans la prière ce que cherche l'ennemi et la manière dont il agit. Nous ne voudrions pas être obsédés par l'ennemi, mais force nous est de reconnaître les faits tels qu'ils sont. Depuis plus de 2000 ans, l'ennemi vise à anéantir la communion des enfants de Dieu. Si cela est bien vrai, quelle en est la signification? Cela signifie que quoi que nous fassions, qui soit précieux pour le Seigneur et pour son témoignage, l'ennemi n'aura de cesse de le briser, de provoquer des divisions en utilisant la vérité ou le mensonge. L'histoire, jonchée de cette haine, haine tenace et virulente, prouve bien que l'Église, en totale communion, le corps parfaitement uni dans la volonté de Dieu, constitue la pire des menaces pour les principautés et pour les puissances des ténèbres qui sont dans ce monde. Conscient de cela, mettons tout en œuvre, oui, tout, pour maintenir la communion spirituelle. Cela ne signifie pas de se compromettre avec ce qui serait contraire à la parole de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il faut redescendre de la position spirituelle à laquelle le Seigneur nous a élevés à un si grand prix. Il faut réagir à la manière de Néhémie envers ceux qui lui disaient « Viens et rencontrons-nous ». Ceci lorsque il a répondu « Je fais un grand travail et je ne peux pas descendre ». Néhémie, chapitre 6, versets 2 à 3. Cependant, chers amis, la position spirituelle à laquelle nous sommes arrivés par l'œuvre profonde de la croix ne doit être gardée qu'en relation avec tous les saints. Nous ne devons pas la garder en omettant de rester en relation avec tous les saints et surtout pas nous considérer comme des êtres supérieurs, comme séparés du monde. Non, 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 absolument pas. Quelle que soit la différence de position spirituelle, les uns, ils tablent tout sur le salut, c'est l'essentiel, attention. D'autres, sur le parler en langue, ce qui n'est pas forcément l'essentiel. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. L'un et l'autre sont importants, mais l'un est plus important que l'autre. Une âme sauvée, c'est l'absolu, qu'elle parle en langue ou pas. La communion avec tous les saints doit donc être préservée et maintenu autant que possible. J'insiste en cela auprès de vous, comme je le fais pour mon propre cœur, car le Seigneur ne nous a pas donné sa lumière et sa vérité pour que ses grâces nous séparent des saints. J'ai peut-être reçu une ou deux petites choses, hein, c'est pas le plus important, mais d'autres ont reçu d'autres choses qui complètent. Nous nous complétons les uns les autres dans le corps de Christ. N'oublions jamais cela. Et ma petite chose va compléter les autres avec ce qu'ils ont reçu en beaucoup plus. Donc, voyez-vous, il a donné tout cela pour le corps de Christ. Et si nous les conservons en dehors des autres, alors son but n'est pas atteint. Aussi, observons donc rigoureusement ce dessein. Nous voyons donc que l'Église est vraiment la cause du conflit, et ceci en raison de son appel et de sa vocation céleste. Faisons à présent une petite pause sur la base de la victoire de ce conflit. Voyez-vous, la base de la victoire, comme nous l'avons vu dans 1 Roi chapitre 18, est certainement l'autel. Éphésiens reprend cette même base. Avant d'atteindre notre position dans les lieux célestes, permettant d'entrer dans le conflit et le triomphe des cieux, nous devons passer par les premiers chapitres d'Éphésiens. Et nous devons reconnaître qu'une mort est survenu et un autel était là, et puis lorsque le vieil homme est mort en nous, nous avons été vivifiés et ressuscités ensemble. Tous les traits de la croix et de l'autel sont sous-jacents au début de la lettre aux Éphésiens. La base de la victoire est présentée et elle représente la croix. Élie a pris 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui était advenue la parole de l'Éternel en ces termes. Israël sera ton nom. 1 Roi, chapitre 18, verset 31. Le fait que l'autel soit constitué de 12 pierres met en relief le trait administratif en relation avec l'autel. Cet autel composé de 12 pierres devient entre les mains de Dieu un instrument administratif, le principe même du gouvernement. Le gouvernement est dans la croix et l'exerce et s'exerce surtout par la croix. Je répète, le gouvernement est dans la croix et s'exerce par la croix, car c'est par elle qu'il a triomphé. C'est sur sa croix qu'il a triomphé et qu'il a dépouillé les principautés et les puissances des ténèbres. Le nombre 12, égal à celui des tribus des fils de Jacob, signifie qu'Israël est un prince avec Dieu. Les fils d'un prince avec Dieu sont donc représentés par l'autel et par la croix. C'est le symbole de la base sur laquelle nous entrons en notre prince dans notre position gouvernement, hein, notre gouvernement en Christ, qui est vraiment le prince avec Dieu. Donc, Christ est bien plus grand qu'Israël. Il est le prince de Dieu, n'oublions jamais cela. Et nous sommes enfants en lui et participons à sa qualité de prince. Cette position nous conduit à la place de l'autorité gouvernementale en Christ dans les lieux célestes. Cependant, tout est lié à l'autel, à la croix. La croix est vraiment la base de la victoire. C'est prouvé par la parole de Dieu, témoignage des cieux, autant que par le témoignage même de l'enfer, car Satan est témoin malgré lui. Je pense même à ce stade de réflexion qu'il en est conscient, car il a d'abord tenté d'empêcher le Seigneur de monter vers la croix qu'il haïssait. À Dieu ne plaise, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, Jésus-Christ, se retournant, dit à l'apôtre Pierre, « Va-t'en, arrière de moi, Satan. » Bien sûr, vous avez compris, il n'a pas nommé l'apôtre Pierre de Satan. Il a nommé Satan qui était derrière cette voix qui a influencé malencontreusement Saint Pierre. Lisez attentivement Saint Matthieu, chapitre 16, versets 22 et 23. Jésus-Christ aimait vraiment l'apôtre Pierre, mais il devait empêcher Satan de s'en servir. Et il fait la même chose pour nous, heureusement pour nous. N'ayant pas réussi à l'en empêcher, eh bien, Satan a tenté de le faire descendre. Il a dit, mais si tu es fils de Dieu, alors descends de la croix. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 40. Voyez qu'il ne renonce pas tellement vite. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons enfin en lui. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 42. Quelle subtile suggestion! Il était bienvenu pour que le monde croie en lui, mais la méthode de Satan a heureusement échoué. N'ayant pas réussi dans cette optique, la croix étant accomplie, Satan cherche donc à changer la prédication de la croix en l'altérer. Il essaie de l'altérer et en anéantir le but. Il pousse donc les hommes à prêcher la croix et la présenter vaine, dénuée de son importance. et la méthode est extraordinairement ingénieuse. Il est bon de déceler jusqu'où peut vraiment aller l'ennemi. La croix prêchée sous son influence est dépouillée de son efficacité. C'est ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, et sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduit à néant la croix du Christ. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 et 18. La croix prêchée dans la sagesse de l'homme est sans effet. Et ceux qui prêchent la croix selon leur propre sagesse ôtent à la croix sa véritable signification et sa puissance. En effet, on a beaucoup parlé du chemin de la croix, mais ce n'est plus le chemin du Seigneur. La puissance même de la croix réside tout simplement dans sa victoire sur l'ennemi, sur le péché dans son principe et sur le mal dans son état. Ceux qui parlent des héros de la croix, qui comparent l'homme ayant donné sa vie pour son pays, par exemple, ou Seigneur Jésus-Christ, nie toute puissance à la croix, n'est-ce pas ? Or, la croix est malheureusement ainsi présentée à l'heure actuelle, de cette façon-là. Et on peut bien comprendre que Satan veille à ce que les chrétiens demeurent dans l'ignorance totale de la pleine signification de la croix. Donc, lorsque un chrétien pénètre dans la révélation de cette véritable signification, c'est un jour terrible pour l'ennemi et une grande gloire pour le Seigneur. Et dès lors que nous arrivons ou que nous arriverons sur la base de l'œuvre représentative du Seigneur Jésus-Christ, nous prendrons notre place par notre identification avec Christ et de sa mort. Son ensevelissement et sa résurrection d'une manière spirituelle, et le conflit sera encore plus virulent. Mais nous serons entrés dans un nouveau royaume et nous bénéficierons de nouvelles puissances. L'ennemi aura perdu sa base et nombreux sont les chrétiens qui croient à l'œuvre de substitution, ce qui n'est pas faux, mais cela est encore du domaine de l'énergie de l'homme naturel. Cela ne constitue pas une menace pour l'ennemi dans le domaine plus élevé du conflit. Cependant, lorsque la croix a été plantée dans notre vie, nous sommes dans un autre domaine, d'une toute autre signification pour le Seigneur et pour Satan. Nous sommes dans un nouveau royaume de conflit. Je suis à jamais crucifié avec Christ, je vis, mais non plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi, est-il dit dans Galates, chapitre 2, versets 19 et 20. L'ennemi déploie tous ses efforts pour masquer ce côté de la croix aux chrétiens. Et dès que nous avons le désir de suivre le Seigneur dans la pleine signification du calvaire, nous rencontrons étrangement plus de difficultés auprès de certains chrétiens que des autres. Les chefs religieux refusent de l'accepter et notre chemin devient de plus en plus difficile. Il est vrai que l'ennemi haït la plénitude de la croix, qu'il cherche à en détruire la valeur aux cieux des croyants et à leur voiler la vérité à propos de sa signification. L'ennemi est tout à fait conscient de la signification de la croix. Il sait pertinemment que la croix est vraiment la base de la victoire. Et je pense que nous ferons bien, oh oui, de prendre le temps de réfléchir à tout cela et de l'appliquer. Gardons à l'esprit que Satan est vaincu par ceux qui sont réellement un avec la croix du Seigneur Jésus-Christ. Le calvaire représente donc sa défaite. Et lorsque nous sommes plantés dans l'amour de Christ avec lui, alors nous sommes partie prenante de cette victoire du Seigneur et de la défaite de l'ennemi. Pour nous, le fait demeure que Satan assaille, accuse, afflige, oppresse, inquiète et harasse, il est indiscutable qu'il est vaincu pour ceux qui sont un avec Christ en sa croix. Amen. On peut dire cela, vous savez, ce n'est pas faux de dire Amen ou Alléluia. Chers frères et sœurs, essayons maintenant de mieux comprendre les difficultés mentales de la prière, car il y en a. Nous avons étudié les cinq phases de la prière, la communion, la soumission, la requête, la coopération et le conflit, rappelez-vous. Nous allons maintenant voir quelques problèmes liés à la prière. Voyez-vous, il nous arrive souvent d'avoir en arrière-pensée un sentiment confus de contradiction ou d'incertitude ayant pour effet de stopper ou de paralyser la prière. Il nous arrive parfois d'être arrêtés dans la prière pour des difficultés mentales que nous n'avons pas analysées ni définies sérieusement. Nous allons donc chercher à définir certaines de ces interrogations, à les analyser et s'en débarrasser. Ainsi, notre prière s'élèvera vers Dieu dans la certitude et la confiance. Aide-moi, Seigneur. L'une des premières difficultés rencontrées se situe dans la volonté de Dieu. C'est un domaine très vaste de contemplation et de considération, renfermant un grand nombre de phases, d'aspects et de points très différents. Nous essayerons de les résumer et nous verrons que nous parvenons à toucher beaucoup plus de choses. Quant à la volonté de Dieu, il est fondamental de savoir si elle est, pour nous, absolue ou simplement relative. Ainsi exprimée, l'idée semble académique, nous allons donc l'expliquer. Dieu permet-il certaines choses parce qu'elles font partie de sa volonté absolue ou bien parce qu'il veut nous faire parvenir par celle-ci à une certaine position? Dans ce cas, la volonté de Dieu est relative puisqu'il permet cela dans un autre but. Cela représente donc la volonté relative de Dieu. Nous avons ainsi acquis la base pour considérer de manière très vaste la volonté de Dieu en relation avec la prière. Il en résultera ceci, étant en présence de la volonté relative de Dieu, les choses pour lesquelles nous prions, lorsqu'elles sont exaucées, cesseront d'être et d'avoir une place dans la volonté de Dieu. Si Dieu permet qu'elle subsiste, nous aurons l'ascendant sur elle parce que Dieu les maintient, car elles sont nécessaires à nous garder dans une certaine position. Si nous étions des créatures parfaites, la volonté de Dieu serait toujours absolue. Il ne lui serait pas nécessaire de permettre certaines choses pour nous élever à de nouvelles positions. Mais comme nous sommes, hélas, imparfaits, déchus, par conséquent, la volonté de Dieu est plus souvent relative qu'absolue. Il y a donc conflit entre soumission et importunité. Ces deux attitudes semblent opposées et contradictoires. Comment donc pouvons-nous réconcilier l'importunité avec la soumission? Ne sont-elles pas à l'opposé l'une de l'autre? Dans la prière, ce n'est pas le cas. On peut frapper à la porte, persister à appeler tout en connaissant la soumission. Mais la soumission n'enlève-t-elle pas la force insistante des coups répétés à la porte? La force de notre appel n'induit-elle pas que nous ne connaissons pas la soumission? La pensée est tenace et elle tend très souvent à enlever la certitude positive et définitive de notre intercession, de sorte que nous ne savons plus où nous en sommes. C'est un problème qu'il faut donc régler aussi définitivement que possible. Peut-être la solution consiste-t-elle à en reconnaître l'élément moral, tout en comprenant que Dieu veille sur les éléments et les questions d'ordre moral. Ce qui doit être surmonté et vaincu est en nous. Cela signifie que beaucoup de choses dans la volonté relative de Dieu sont permises ou envoyées par le Seigneur dans le but de nous pousser à surmonter certaines choses parce que des facteurs moraux sont en vue. Reconnaissons que la nouvelle création est une question morale. En ce qui nous concerne, elle n'est pas complète. Elle est parfaite et complète en elle-même, mais pas en nous. La veille, ou plutôt la vieille création, extérieure à la nouvelle, exerce une grande influence sur cette nouvelle création. Et pour le croyant, le péché n'est pas éteint, le monde non plus, pas plus que le diable. Inutile de rappeler que le diable existe bel et bien. Cependant, tout au centre de la vieille création, se trouve la nouvelle, heureusement, qui est une question morale. On peut dire que les éléments et les facteurs moraux de toute question morale doivent être développés à la souche pour faire de nous des créatures morales responsables ayant une conscience nouvelle, une nouvelle mesure des valeurs, une connaissance nouvelle des principes. Un monde nouveau, céleste, entre en nous et il nous faut parvenir à en acquérir la connaissance et la sagesse de manière intelligente. Nous devons en connaître les secrets et ces vertus doivent s'incruster en nous. Par la régénération, le Seigneur ne nous transforme pas en robots agissant contre notre volonté, contre nos désirs, contre nos sentiments, notre raison, notre intelligence, agissant par obligation. Et ceci est donc contraire aux Saintes Écritures. Mais le Seigneur, il a fait de nous des créatures morales, selon une nouvelle moralité, un nouveau système céleste, une intelligence toute nouvelle, donc qui n'émane pas de l'homme naturel. Elle ne vient pas de l'homme naturel, pas du tout, selon un nouveau système de jugement, d'appréciation de valeur. Tout en nous, voyez-vous, chers amis, doit dorénavant être donné au Seigneur. Il nous fera comprendre sa volonté et nous demandera de nous exercer en fonction des nouveaux critères qui sont en nous. La nouvelle création est donc morale. Pourtant, voyez-vous, la vieille création l'enveloppe encore. Et oui, c'est donc par la conquête, par la lutte, par l'effort intense pour triompher par une application soumise, délibérée, ardente et persistante que la nouvelle création grandira. La volonté renouvelée par l'Esprit Saint n'agira pas de façon mécanique, elle s'exercera dans le Seigneur. Le fait de prier dans la volonté de Dieu ne signifie pas que l'Esprit Saint s'empare de notre volonté pour nous contraindre à parler sans notre intelligence. Mais non, l'Esprit Saint n'arrête pas l'intelligence et la compréhension de ceux qu'il appelle à la prière. Il nous appelle à exercer notre intelligence. Et je prierai avec l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, nous est-il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. En outre, la prière dans le Saint-Esprit ne signifie pas que nous nous abandonnons à lui de manière à perdre notre vie morale au sens le plus large. Il est donc important de savoir que la prière est une éducation. Oui, les questions morales ont une valeur prééminente dans la pensée du Seigneur. En ce qui nous concerne, la prière, elle devient donc une éducation et une instruction. Et ces deux mots ayant une signification différente, l'instruction a donc pour but de nous donner une connaissance. L'éducation, elle est liée à la valeur morale dans son expression pratique. Il est donc primordial de se souvenir de ces définitions. Et lorsque nous parlons d'une personne instruite, nous induisons qu'elle connaît beaucoup de choses. Lorsque nous parlons d'une personne bien élevée, nous induisons qu'elle a une grande valeur dans l'application pratique. Beaucoup de personnes instruites sont parfaitement inutiles. Étant entraînées et retenues dans la prière, et le Seigneur y veille heureusement, nous apprenons des choses totalement nouvelles. Nous pénétrons des secrets, nous abordons une nouvelle connaissance. Et d'autre part, cela a pour effet de nous élever, de nous amener à une position morale beaucoup plus haute, croyez-moi. N'ayant par conséquent, ou plutôt on peut dire par conséquent, nous devons reconnaître absolument que la prière n'est pas simplement un avantage spirituel, pas du tout, mais elle consiste à poursuivre une campagne. Il existe donc un plan divin dans lequel il nous faut entrer tous ensemble. La prière n'a pas seulement une valeur personnelle et subjective, elle est objective, collective et relative, y compris dans les valeurs morales résultant de la prière individuelle. Comme nous l'avons montré, la soumission est une attitude active et positive. Alléluia! Elle n'est donc aucunement passive, puisqu'elle consiste à entrer en accord avec la volonté divine. L'importunité suivra pour le développement des traits moraux. Les trois aspects de la prière importune sont donc l'aspect moral, l'aspect éducatif et l'aspect collectif. Le facteur moral, il a deux aspects qui lui sont propres. Nous avons parlé des ingrédients de l'encens, souvenez-vous, offerts sur l'autel d'or. Il représente les valeurs morales de Christ. Celles-ci doivent être d'une part saisies et appropriées par la foi. C'est l'un des aspects du côté moral de la prière importune. La foi saisit et s'approprie délibérément et avec insistance les vertus morales et les gloires du Seigneur Jésus-Christ. C'est un exercice. Il représente le refus de l'assaut des arguments soulevés par le moi naturel pour décourager la prière. Lorsque nous entrons en la présence de notre Seigneur, nous devons le faire dans le sens de notre propre indignité, de notre néant, oui, de notre faiblesse. Cela n'est pas la base de notre requête, mais cela doit être reconnu. Cependant, la prière efficace, positive, est bien souvent entravée par l'obsession persistante de notre propre péché et de notre impuissance. Il nous est demandé de nous saisir positivement des vertus et des valeurs morales de Christ pour nous approcher de Dieu. L'ennemi nous assaillera de conviction de péché, de condamnation et d'accusation en présence de Dieu, mais nous devons prendre à deux mains les valeurs du Seigneur Jésus-Christ. Ne pouvons approcher le trône sans ces valeurs, c'est une véritable nécessité. Nous devons opposer un refus délibéré à toutes ces accusations. Chez certains croyants, la vie de prière devient lointaine, presque impossible, car ils subissent les assauts d'analyse personnelle de tout ce qui est mal en eux, et ceci au point de ne jamais parvenir à une attitude positive. Il est donc indispensable d'avoir la persistance de la foi pour nous approprier ces valeurs du Seigneur Jésus-Christ et entrer en la présence de Dieu. Sous l'autre aspect du facteur moral, ces valeurs doivent être formées dans notre âme par l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus-Christ nous représente en la présence de Dieu comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il est surtout l'homme dont tous les membres de la nouvelle création en Christ doivent prendre le caractère, donc les vertus et les valeurs d'homme parfait. C'est ça qui est important. Voyez-vous, ils doivent devenir eux-mêmes participants de sa nature. Et ces versets de Christ sont éprouvés, triomphantes et même énergétiques. Le Seigneur n'est pas exposé comme le modèle à admirer, mais il y a en lui une puissance et une réalité vivante, car le Seigneur Jésus-Christ vit. Alléluia. Il est donc le Christ vivant qui se donne et que nous, qui sommes ses membres, recevons par l'Esprit Saint. Sa foi n'est pas un modèle parfait qu'il nous faut admirer. C'est une foi par laquelle nous devons tout simplement vivre. Sa patience a le même caractère. Nous sommes appelés à être disciples et participants de la patience de Christ. Oui, bien des passages des Saintes Écritures jailliront alors dans notre pensée. Ce sont les vertus de Christ qui sont ainsi ajoutées. Nous sommes appelés, nous dit du reste l'apôtre Paul, à être participants de Christ. Ainsi, sa foi, sa patience, sa consécration, son obéissance, ses souffrances, son amour doivent tous être éprouvés, appris et formés carrément en nous. Ces vertus sont donc triomphantes, non pas comme extérieures à nous, mais en relation avec nous. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, la Bible dit « Les précieuses et très grandes promesses nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Lorsque Dieu ne répond pas tout de suite, croyez-moi, chers frères et sœurs, il y a des raisons. Il forge en nous les valeurs morales de son Fils, une foi parfaite et triomphante, une patience parfaite et triomphante, une obéissance qui n'a d'autre fondement que celui qu'il demande. En vérité, la prière est une école d'éducation. Ses vertus sont acquises par l'exercice. Souvenons-nous que Dieu vise un seul but et que notre participation à Christ, à laquelle nous sommes appelés, sera finalement morale. Elle sera liée au caractère, ce qui explique la volonté relative de Dieu. Le péché n'est pas la volonté absolue de Dieu, pas du tout. Il l'a seulement permise. Le péché qui nous entrave, Hébreux chapitre 12, verset 1, n'est pas dans la volonté de Dieu. Par conséquent, c'est sa volonté relative induisant sa permission. Il le permet dans un but bien précis. Lorsque ce but sera atteint, nous pourrons peut-être être gardés dans une certaine position. Mais lorsque la position pour laquelle il a permis le péché sera atteinte, la volonté relative de Dieu sera accomplie. Et cela s'applique à toute chose. De nombreuses circonstances rencontrées au cours de notre vie ne sont pas la volonté absolue de Dieu. Une chute ne fait pas partie de la volonté absolue de Dieu, mais rien ne pouvant arriver à ses enfants qu'il n'ait permis. Il s'agit de sa volonté relative. Comprenons bien cela. Nous devons chercher dans la prière ce que Dieu veut nous enseigner au travers des embûches que nous rencontrons. Et c'est notre éducation. Nous devons arriver à comprendre ce que Dieu cherche à nous apprendre par cet exercice profond de cette souffrance du cœur que nous traversons pour notre éducation. Nous parvenons alors à un degré beaucoup plus élevé de notre vie. La seconde chose dans la prière importune, c'est la connaissance. La connaissance, elle est d'abord la vie morale. Oui, c'est d'abord la vie morale, ensuite la connaissance. Ceux qui se donnent entièrement aux mains de Dieu expérimentent souvent des contradictions apparentes. Et nous pouvons avoir le sentiment très clair de ce que Dieu nous demande, tout en étant dans l'impossibilité absolue d'agir en conséquence. Aucun chemin ne s'ouvre toutes les portes. Et toutes les portes sont pour le moment closes et les retards s'accumulent. Alors, que cherche donc le Seigneur Jésus-Christ ? Il veut nous exercer à la prière et il veut nous pousser à être importants pour que les portes closes puissent s'ouvrir. Nous ne pouvons pas abandonner et nous ne devons jamais abandonner. Nous pouvons tenter de tout abandonner au Seigneur, mais nous sommes poussés à revenir sur notre intercession encore et encore et encore. Le Seigneur, il ne nous permet pas de rester indifférents. Il désire une connaissance et une intelligence plus grande de notre part. Et cela est lié aux voies du Seigneur à notre égard et à quelque chose que nous avons fait au cours de notre expérience, mais que nous devons clarifiée dans notre pensée. Nous ne pouvons pas apprendre les principes divins ni obtenir la connaissance spirituelle seulement par les livres. Nous ne pouvons les acquérir que par la formation intérieure. Il est impossible d'apprendre les principes divins et spirituels uniquement dans les manuels ou dans la Bible. Nous n'apprendrons le contenu de la Bible que par l'expérience. La Bible n'est pas un CD seulement à écouter, c'est un microphone. Quelle est la différence? Un CD reproduit ce qui est gravé. Un microphone transmet quelque chose venant de l'extérieur. La Bible nous est donnée par notre lecture de la parole venant de l'au-delà pour notre intelligence. Et nous pouvons avoir une connaissance livresque de la Bible, en détenir même les meilleures analyses et en rester au but pratique et spirituel de manière vivante, mais très peu utile au Seigneur Jésus-Christ. Par contre, si nous possédons une compréhension de la Sainte Parole comme transmise par le microphone, alors nous avons, en plus des Saintes Écritures, notre Dieu qui nous parle par les Écritures et nous le recevons de manière vivante. Si nous sommes dans l'Esprit, la parole nous apportera la pensée du Seigneur. Sans l'opération de l'Esprit Saint, elle ne sera qu'un livre comme les autres. La connaissance spirituelle est absolument indispensable. Trop de gens considèrent la Bible comme un simple manuel. Nous affirmons qu'il est impossible de connaître les principes divins ou d'obtenir des connaissances spirituelles uniquement dans les livres. Nous ne pouvons connaître les choses de Dieu que dans la ligne de vie, par l'expérience, par un caractère vivant qui est forgé en nous, par une vie qui se développe en nous et génère un travail pour son accomplissement. Et c'est ainsi que nous arrivons à la connaissance spirituelle. Elle nous est donnée dans la prière importune. Et c'est ainsi que Dieu demande et rend nécessaire la prière importune. Nous arrivons donc à connaître les choses spirituelles par le travail de notre âme devant Dieu, par une lente expérience d'angoisse. Bien souvent, la hâte n'engendre qu'une perte de temps. Nous devons alors revenir en arrière, parce que nous étions bien trop pressés. Le Seigneur doit souvent faire revenir en arrière ses enfants, et moi, j'en sais quelque chose. Les entraves de cette sorte qu'ils ne puissent pas agir et les maintenir longtemps dans un exercice profond en sa présence pour qu'ils apprennent, pour que nous apprenions la pensée du Seigneur qui leur est, qui nous est indispensable. Posséder la pensée du Seigneur avant d'agir, être obligé de revenir sur nos pas à un but, a pour but unique que nous connaissions sa pensée. Les délais imposés par le Seigneur sont donc des moments où le Seigneur nous exerce à la prière importune pour nous conduire à la connaissance spirituelle. Nous devons surtout prendre nos responsabilités dans la prière. Il y a, troisièmement, l'aspect collectif. Néhémie a parlé de la prière qu'il élevait vers Dieu jour et nuit, mais cette prière était relative, elle était liée au peuple de Dieu. Les prières de Christ avaient le même caractère. Il ne priait pas simplement pour lui-même, la prière du Seigneur Jésus-Christ était liée aux siens, à ses chers disciples. Il priait jour et nuit pour eux. Les prières de saint Paul avaient le même caractère. Nous ne cessons de prier pour vous, dit-il dans Colossiens, chapitre 1, verset 9. J'exhorte donc avant tout à faire des demandes, des prières, des sollicitations, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. La persistance et l'importunité sont donc présentes, mais il s'agit d'une prière collective. Dans la parabole du juge inique et de la femme importune, que vous pouvez relire dans saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8, la femme représente tout simplement l'Église. Christ explique dans l'évangile de saint Luc, chapitre 18, verset 7, « Et Dieu ne vengerait pas ses élus qui clament vers lui jour et nuit alors qu'ils patientent à leur sujet ?» Que signifie faire justice aux élus contre leurs adversaires? C'est la victoire finale, c'est le moment suprême où l'accusateur des frères, oui, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, sera bientôt vaincu. Le grand juge jugera l'accusateur dans son aspect collectif. L'ami importun, dans Luc chapitre 11, versets 5 à 8, et également une situation relative. L'importunité de l'ami a fait sortir l'autre de son lit. Mais c'était en relation avec d'autres. Oui, tout cela figure un plan, un projet dans lequel sont engagés tous les enfants de Dieu. Dieu ne nous amène pas à une position seulement en tant qu'individu, mais il nous fait arriver avec tout son peuple. N'est-ce pas merveilleux? Car en effet, Éphésiens, chapitre 4, verset 13, affirme jusqu'à ce que nous puissions parvenir, nous tous, etc. Donc les souffrances ne sont pas la volonté absolue de Dieu, mais ce sont sa volonté relative dans le sens où elle contribue à la réalisation d'un dessein beaucoup plus vaste de Dieu. Lorsque ce dessein sera accompli, la volonté relative de Dieu permettant les souffrances va cesser. Cessera, et dès lors, il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur. La vision du plan de Dieu, dans son ensemble, nous permet de découvrir que la persistance et l'importunité attendue et demandée affectent ces trois choses. Bien qu'elles semblent y être opposées, l'importunité est notre coopération avec Dieu. Nous pouvons imaginer qu'elle aura pour effet de contraindre Dieu à agir et de le persuader. Mais Dieu ne nous attire dans cette voie que pour que nous coopérions avec sa volonté. C'est à cela que nous pensions lorsque nous disions que certaines choses devraient être vaincues en nous, que nous devons triompher de toutes sortes de choses, de la vieille création, et nous devons donc surmonter tous nos désirs, tous nos sentiments, tous nos préférences, nos jugements, et encore nos conceptions. Dans l'exercice, l'action et le travail de la prière. Nous entrons en coopération avec Dieu. Nous finissons par découvrir que notre pensée était de chercher à persuader le Seigneur de faire certaines choses, alors même que le Seigneur nous guidait à un endroit où il est libre de faire ce qu'il désire. Le Seigneur a des voies parfois étranges, mais qui sont finalement toujours justifiées. La sagesse, elle est, croyez-moi, justifiée par ses enfants. Et, chers amis, nous pouvons maintenant, ensemble, prier ensemble, c'est très important. C'est pas toujours facile. Oh non. Mais nous pouvons le faire et apprendre tellement de choses par toutes nos prières, les prières des uns comme des prières des autres. Prions donc ensemble. Ô Père éternel, l'âme, elle ne peut goûter les ardeurs de la charité si votre lumière ne lui découvre l'amour et la tendresse que vous avez pour nous. Vous, la lumière, vous êtes en même temps l'aliment du feu. C'est vous qui le faites croître dans l'âme, comme le bois que l'on jette dans la flamme en augmente le brasier. C'est vous, la lumière, qui développe la charité dans l'âme en lui découvrant votre divine bonté. Et la charité se nourrit de vous au-dedans d'elle-même en désirant de connaître toujours plus son Dieu qui est sans cesse pour la satisfaire et se fait connaître davantage. Ô très douce Providence, vous n'avez pas voulu que l'homme marchât dans les ténèbres et demeurât dans l'inquiétude. Vous l'avez pourvu de la lumière de la foi qui lui montre le chemin et lui procure la paix et la tranquillité. Avec cette lumière, l'âme ne peut mourir de faim, ni souffrir de la nudité, ni éprouver l'indigence de la pauvreté. Et par cette lumière, n'est-elle pas nourrie de la grâce même? Ne goûte-t-elle pas dans la douceur de votre amour l'aliment même de l'âme? N'est-elle pas revêtue de la robe nuptiale de la parfaite charité et de votre volonté éternelle? N'a-t-elle pas en perspective des richesses infinies? Ô Dieu éternel, ô incompréhensible amour, votre créature est comme toute pétrie avec vous, et vous avec elle, par la création, par la force de la volonté, par l'amour qui vous a fait la créer. Oui, par la lumière même, la lumière naturelle que vous lui avez donnée pour qu'elle vous connaisse, vous le vrai, la vraie lumière, en exerçant cette lumière avec le désir des vraies et réelles vertus pour la gloire et pour l'honneur de votre saint nom. Ô lumière, au-dessus de toute lumière, ô bonté qui surpasse toute bonté, ô sagesse supérieure à toute sagesse, ô feu plus ardent que tout autre feu, vous êtes seul celui qui est en dehors de vous, rien n'est qui ne tienne l'être de vous, ô Trinité éternelle, ô cher amour, vous, lumière, donnez-nous la lumière, vous, sagesse, donnez-nous la sagesse, vous, force suprême, faites-nous fort, qu'aujourd'hui, Dieu éternel se dissipe nos ténèbres pour que nous connaissions parfaitement et suivions véritablement votre vérité avec un cœur pur et libre. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Il vous aime tendrement. Et encore une fois, n'hésitez pas à réécouter le CD, cette étude, car vous en profiterez encore davantage, car davantage la lumière se fait en nous. C'est également le cas pour moi. Je l'ai bel et bien expérimenté très souvent. À bientôt, mes très chers amis, et encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.